Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, cap sur une petite ville des États-Unis avec un roman très attendu. Nous partons aussi en Belgique pour parler cuisine et nous voyagerons dans l'enfance. C'était la promesse, une promesse. À la mort de l'éditeur Bernard de Fallois, Joël Dicker était venu en janvier lui rendre hommage et nous avions convenu ensemble, à l'antenne, de le recevoir pour son nouveau roman, celui que Bernard de Fallois avait eu le temps de valider. C'est l'un des romans les plus attendus par le public suisse, mais plus largement aussi par tous les lecteurs francophones. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir tenu votre promesse.
Merci à vous.
On l'a tenu aussi, effectivement.
Exactement.
Après la vérité sur l'affaire Harry Kébert et le livre des Baltimore, vous publiez La disparition de Stéphanie Meller. Quels ont été les derniers commentaires de votre éditeur sur ce livre ?
Vous savez, c'est amusant parce que quand on s'est vu pour la dernière fois, j'ai eu un dernier déjeuner avec Bernard à la mi-décembre et on parlait des prochains romans. Mmh. Donc le livre était déjà derrière nous parce que le livre était presque fini, le processus allait commencer de la correction, de l'impression. Et je lui avais dit, j'ai un roman comme ci, un roman comme ça, encore un autre. Et c'est ça, il m'a dit, oh, il va falloir que je vive très longtemps. Et je lui ai dit, mais j'espère bien.
Ouais.
Mais je sais qu'il m'accompagne.
Oh.
Et même s'il n'est plus là physiquement, je sais qu'il va suivre un peu toute cette route.
Voilà, et on avait dit qu'on lui rendrait hommage à nouveau. Avec votre venue, c'est ce qu'on va faire.
Et
tout cette
émission.
Joël Dicker est avec nous donc pour son nouveau roman, c'est l'événement de ce week-end en librairie. Nous irons donc en Belgique pour un entretien en public avec l'auteur et grand spécialiste de la BD Benoît Peters. Il confie dans un livre dessiné sa passion pour la cuisine. Et puis nous vous ferons découvrir deux nouvelles collections de petits livres, l'une pour enfants, l'autre pour adultes. Il sera question de l'enfance avec Irène Frein et Agnès de Sarthe.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Quatre libraires sont comme chaque semaine avec nous en multiplex. C'est le grand retour de Mathieu Colombe, libraire à Aix-en-Provence, directeur de la librairie Goulard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Heureux de vous retrouver. Tout va bien pour vous ?
Impeccable.
La France où nous serons en public la semaine prochaine au Salon du Livre de Paris, enregistrement exceptionnel vendredi 16 mars à 15h30. Venez nombreux, nous pourrons nous rencontrer et échanger après l'émission. Vous serez, j'espère, là, au moins dans le public, Mathieu.
Évidemment.
Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique, Déborah. Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. On vous entendra tout à l'heure. Vous étiez à la Foire du Livre avec nous autour de Benoît Peters. Voilà. Bonjour Marie-Noël Blé.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada. Vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie Raffin. Et en Suisse, c'est la pétillante, douce et pertinente Laura Sanchez. Bonjour Laura.
Mais bonjour Emmanuel.
Plein de compliments, c'est à tour de rôle.
Oh là là, j'ai la tête qui tourne.
Vous êtes libraire à Genève, dans la librairie du Boulevard. Merci à tous les quatre d'être avec nous tout au long de cette émission. Bonjour Irène Frein.
Bonjour.
Bonjour Agnès de Sarthe.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être là. La collection Folio Cadet, premier roman, fait peau neuve et publie l'une de vos histoires, Agnès, la géniale histoire de deux frères à lire à partir de 8 ans. Et les éditions de l'Aube ont lancé une petite collection en partenariat avec le journal Le 1. Irène Frein, vous y publiez 6 textes très personnels et on commence, on parlera de tout ça tout à l'heure, on commence toujours cette émission par une anecdote personnelle justement. Alors cette fois, deux anecdotes, deux femmes après le 8 mars, ça nous paraît cohérent. On commence par qui ? Vous avez carte blanche. Agnès, je vous sens motivée. Allons-y.
Je me souviens d'une rencontre qui avait lieu dans une médiathèque et il y avait plein de monde, ça se passait très très bien. Et puis à la fin, au moment des questions, l'animateur a demandé si quelqu'un dans le public souhaitait prendre la parole. Et là, il y a une femme qui avait été très attentive pendant toute la rencontre qui a dit « Oui, moi je souhaite prendre la parole, très bien, allez-y, qu'avez-vous à dire ? Une question peut-être ? Non, je voudrais dire que je suis venue parce que je déteste Agnès de Sarthe et j'ai d'ailleurs apporté plusieurs de ses livres pour vous lire des passages et pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est mauvais. » J'étais un peu surprise et puis je lui ai dit, bah écoutez, alors puisque c'est le moment des questions, je vais vous poser une question. Pourquoi vous êtes venu ? Vous auriez pu rester chez vous, regarder la télé, pour boire un verre avec des amis, faire quelque chose de beaucoup plus agréable que rencontrer.
Pour se défouler ?
Non, elle m'a dit que c'était pour vérifier.
Ah
oui. Et je lui ai dit alors, elle me dit, mais je vous trouve plus sympa que vos livres. Je lui ai dit, bah, c'est une mauvaise nouvelle, je préférais que ce soit dans l'autre sens. Voilà, une petite
histoire. C'est pas mal, Agnès. C'est courageux de raconter ça. Merci beaucoup, Irène Frein.
Bien, les rencontres, en effet, nous incitent, à nous les auteurs, à l'humilité. C'est un salon du livre. Il y a une queue pour signer mes livres et je vois qu'un homme m'épie, un homme d'âge un peu affaissé, un peu grisonnant, enfin bon, voilà, pas dans mes cordes du tout. Et il m'épie et chaque fois que j'ai fini, je vois qu'il m'épie. Et puis finalement, il arrive et puis il fait, laisse passer deux personnes. Puis finalement, il se jette à l'eau et il dit « Je vous ai connu au Mali en 1984 ». Je lui dis « Monsieur, excusez-moi, j'ai jamais fichu les pieds au Mali ». Si vous étiez au Mali en 1984. Je lui dis « Bah, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour moi ». Alors il insiste, j'insiste en disant que c'était pas moi. Et à la fin, il se met à nouveau dans la file, je signe quelques livres. Et puis il revient et me dit « En effet, oui ». C'est pas vous parce que l'autre, elle était. Et alors il fait le geste qui, si vous voulez, si j'avais un poitrail genre 120, genre vous savez ces actrices hollywoodiennes, et il dit elle était. Et alors je lui dis bien, justement, voici la preuve que ce n'est pas moi. Et je montre un peu, découvre un petit peu. Ah, oui. Ah ben juste, ah, juste que je montre que je fais que du 85 bonnet. Et je lui dis, vous savez, ça m'a tout. C'est la preuve. Je peux pas vous montrer mon passeport, mais c'est la preuve.
Très bien. Bon, je sais pas comment on va faire, Joël, pour enchaîner. Bon, vous l'avez compris, Irène Frein et Agnès de Sartre sont dans la librairie francophone cette semaine. Et on est déjà en retard, c'est génial. Joël Dicker est avec nous donc pour son nouveau roman événement, La disparition de Stéphanie Meller. Encore une nouvelle enquête incroyable, dans la même veine, dans le même style, avec la même méthode. Vous êtes un auteur suisse qui publie des romans américains, Joël, dans l'esprit des grands auteurs d'Amérique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce registre ?
Mais je ne crois pas que ce soit des romans américains. Bon, oui, trois romans se situent aux États-Unis. Mais je ne crois pas que l'inspiration soit américaine. Et je crois que les grands auteurs français, non pas que j'en sois un, mais on fait ça bien avant les autres. Et je crois que ce qui me ramène un peu à cette littérature-là, c'est-à-dire la vraie fiction, le vrai roman, celui qui vous emmène, c'est ce que j'ai aimé des grands auteurs, Dumas, Hugo, Mark Twain. Peut-être que le roman se situe aux États-Unis parce que c'est un pays que je connais bien et qui me permet de mettre de la distance entre Genève où je vis et mon roman, qui me donne un peu de liberté pour la fiction.
Bon, le problème avec une enquête de 630 pages, c'est qu'on ne peut pas tout raconter en fait, hein. Très peu de choses d'ailleurs, mais il a fallu le lire jusqu'au bout pour pouvoir comprendre et juger, ce que j'ai fait évidemment. C'était long, très long. Vous multipliez les personnages, les fausses pistes, c'est presque un jeu pour le lecteur qui cherche à son tour qui est le coupable.
Oui, mais je crois que le roman est un jeu. Je crois que le roman n'existe vraiment que parce que quelqu'un veut bien le lire. Je crois que auteur, je propose une histoire dont je raconte le 50%, et c'est le théâtre qui a fait ça aussi, c'est le cinéma qui a fait ça aussi. Vous voyez un acteur dont vous savez qu'il joue un rôle et vous avez envie d'y croire. Donc c'est qu'il y a quand même une participation qui est là.
Bon, alors tout commence à Orphea, une petite ville balnéaire de l'État de New York. Le maire, son épouse et leur fils de 10 ans ont été assassinés. Une joggeuse qui passait à proximité de la maison aussi. C'était en 1994. Et 20 ans plus tard, en 2014, le jour où le capitaine de police Jesse Rosenberg s'apprête à partir à la retraite, une jeune journaliste, Stéphanie Meller, lui apprend qu'il s'est trompé de coupable. Pourtant, elle lui dit... La réponse était sous vos yeux. Tout commence là.
Et tout commence là. Vous le résumez très bien. Hein, c'est... Et tout commence là. Et d'abord, Jesse ne veut pas le croire. Il veut pas croire qu'il s'est trompé. Il reprend cette enquête. Il dit mais non, tout était là. Toutes les preuves étaient là. On a vu juste. On avait raison. Et comme elle disparaît, il se relance dans l'enquête. Et en se lançant dans l'enquête sur la disparition de cette jeune femme, il se lance aussi sur la réouverture de l'enquête qu'il avait menée en 1994.
Et on découvre que tous les protagonistes de l'affaire ont des choses dissimulées. Il y a des vérités inavouables et des traumatismes personnel aussi. Quand une situation vacille, c'est qu'il y a eu des souffrances antérieures ?
Oui, parce que je crois que c'est un livre sur la réparation.
Ouais,
c'est un livre qui, au fond, raconte une enquête, mais ce n'était pas la première idée. Je suis parti de tous ces personnages qui sont liés ensemble par cette enquête parce qu'ils sont réunis dans cette petite ville par cette enquête. Mais c'est un livre qui raconte la réparation de ces gens et qui les met beaucoup dans une position ou qui met le lecteur, je crois, dans la position de la projection, c'est-à-dire mais qu'est-ce que moi j'aurais fait. Et c'est une ville qui n'existe pas mais qui s'appelle Orphea. et qui revient au mythe grec, évidemment, parce que Orphée, qui va aux enfers chercher Eurydice, dont on lui dit « tu ne peux pas te retourner », et qui remonte avec elle, mais qui se retourne quand même parce qu'il ne peut pas résister, il veut être sûr qu'elle est là. Mmh. Et moi, c'est un mythe qui me parle beaucoup, parce que je me dis « mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? Ouais. Est-ce que j'aurais pu ne pas me retourner ?»
Et c'est un roman sur la fuite. Parce qu'ils fuient tous. Soit ils fuient parce qu'ils arrivent à Orphéa, ils ont fui à une autre vie. Soit ils fuient parce qu'il faut quitter Orphéa pour plein de raisons qu'on ne peut pas raconter. Donc, la fuite, c'est salutaire ou c'est lâche, Joël Dicker ?
Mais la fuite, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Parce que la fuite, c'est un besoin, au fond. Mais tout vous poursuit. Et c'est quelque chose qui ne vous débarrasse de rien. Parce que vous fuyez avec vous-même et que le problème, c'est vous. Et c'est un peu ça aussi, cette histoire où ces gens échouent finalement dans cette ville qui est comme un mur, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Et donc, ils sont obligés de se retourner. Il y a ce retournement à l'intérieur d'eux-mêmes, face à eux-mêmes. Et ils sont obligés d'essayer de trouver, en tout cas pour eux, une forme de réparation qui est une renaissance au fond.
Voilà, on ne peut rien dire d'autre. Merci d'être venu, Joël. J'ai été ravi de ces 11 heures de lecture pour vous poser 3 questions.
Merci beaucoup, au revoir.
Génial. Bon, allez, on va écouter la BO du roman quand même. Non,
avec plaisir.
Hein. On vous a demandé de choisir la musique qui illustre le mieux votre livre. Vous avez choisi Michel Petrucciani. On a une surprise pour vous. Il y a une voix qui va lire un extrait de votre roman sur cette musique pour nous mettre dans l'ambiance. Le maire Alan Brown s'adresse à Anna, jeune adjointe de la police d'Orphéa. Et la voix qui va lire, je vous laisse la découvrir, Joël Dicker, suspense, comme dans vos livres. Écoutons.
Partageons des idées fortes, les mêmes ambitions que pour notre société. Tu aurais pu faire une immense carrière de policier à New York. Et il y a longtemps que j'aurais pu céder aux sirènes de la politique et à chercher à être élu au Sénat ou au Congrès. Mais au fond, cela ne nous intéresse pas. Car ce que nous pouvons réaliser à Orphéa, nous ne le pourrions jamais à New York. Washington ou Los Angeles, c'est-à-dire l'idée d'une ville juste, d'une société qui fonctionne sans trop d'inégalités. Quand le maire Gordon m'a proposé de devenir son adjoint en 1992, tout était à faire. Cette ville était comme une page blanche.
Joël Dicker est tout étonné.
Bah oui, c'est beau, merci.
Irène Frein, donc.
Merci, hein, Irène Frein. Merci,
qui a lu
Irène
un extrait de votre roman.
C'est un bonheur que de mettre sa voix dans vos pages.
Ah, merci.
Sur cette musique de Michel Petrucciani. Alors, comme dans vos précédentes enquêtes, Joël, vous analysez un peu la société. Vous attaquez une fois encore les critiques littéraires, imbues de leur personne, qui ne lisent pas les livres et qui ne rêvent que d'une chose, pouvoir écrire eux-mêmes. Vous ne les aimez pas trop,
encore,
les critiques littéraires.
Pas encore, c'est la première.
Dans l'affaire Harry Kéber, moi
c'était
j'avais
les
un souvenir.
C'était les éditeurs.
Mais il y avait un
chacun
critique
son tour.
Aussi, non ?
Non, je crois pas.
Je l'ai inventé, alors.
Chacun son tour. Il y a les éditeurs, après il y a les critiques. Non, mais vous savez, c'est censé être un peu rigolo. Il faut avoir du degré numéro 3, 4, 5 ou 6 pour dire ça. Pour moi, il y avait quelque chose de très amusant d'imaginer ce critique qui est un critique qui n'aime rien, qui est mauvais, qui n'est pas heureux. Mais parce que c'est beaucoup plus amusant, c'est plus truculent, je dirais.
Il est dans la confusion des genres, quand même. Parce que c'est ça, ce roman, Joël Dicker. C'est un roman sur la confusion des genres. Vos personnages confondent tout. Ils n'ont pas le discernement nécessaire pour pouvoir avoir une vie intègre.
Non, et c'est pour ça qu'ils vivent dans un tourbillon à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus où ils vont, ils ne savent plus ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'il y a cette blessure dont pour chacun est très différente. Ils savent qu'il y a cette vie en eux, cette douleur en eux, cette blessure en eux, ils aimeraient aller au-delà de ça. Et c'est cette confusion qui doit être mise à plat. Il faut que le flou cesse.
Place au libraire, Joël Dicker. La
Avec
Suisse,
plaisir.
Le Canada ou la France, on commence par qui ?
Par le Canada.
Par le Canada, très bien, allons-y. Marie-Noël Blé a, je crois, adoré votre livre, non ?
Ah ben oui, j'ai adoré, j'ai été bien évidemment happée. J'ajouterais presque contre mon gré, tellement j'étais perplexe devant l'ampleur et le genre du roman qui s'offre à moi. Mais vraiment, je ne sais pas comment diable on peut résister à une structure si efficace. Les va-et-vient entre les deux époques dont il est question agacent autant qu'ils nous tiennent en haleine. Donc oui, c'est réussi. On aurait pu se perdre dans cette constellation de personnages et les nombreuses ramifications du récit. Puis, en fait, on aime être un peu perdu en sachant pertinemment qu'on avance à petits pas dans un univers solidement construit.
Bien. Laura Sanchez, pour la Suisse, vous êtes un peu plus mesurée.
Alors oui, moi je trouve effectivement que ce livre est très prenant. C'est comme une bonne série télé, hein. On s'assoit, on s'attache beaucoup aux personnages et aux lieux aussi. Je le dis qu'à vous maniez l'art du rebondissement remarquablement. D'ailleurs, vous allez jusqu'à assassiner des gentils libraires, ça montre bien que vous ne reculez devant rien pour scotcher vos lecteurs. Ceci dit, pour moi, trop de rebondissements tue un peu le rebondissement et par moments, j'avoue, vous m'avez perdu en route.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Un peu plus que d'habitude. Mathieu Colomb pour la France, qu'en pensez-vous?
Ben, je suis assez d'accord, hein. Il y a effectivement des choses qui peuvent agacer dans ce long roman, comme par exemple des rebondissements justement prévisibles souvent, ou parfois une impression de fouillis qui va un peu déranger la lecture. Mais il remplit très efficacement son office. C'est-à-dire que l'intrigue est alléchante, on se retrouve à tourner les pages en oubliant un peu le temps qui passe. Et malgré un côté parfois un peu trop mélo, la disparition de Stéphanie Mailer reste un excellent roman pour se détendre, aller pourquoi pas sur une plage.
Mais bien sûr, parce que vous êtes dans le sud de la France. Ouais. C'est vrai. C'est une plage pour l'été. Ça dépend où on est. Dans ce roman, c'est vrai que vous rendez une forme d'hommage au libraire, Joël Dicker. Il y a à Orphéa, cette petite ville où se déroule cette tragédie, une librairie qui rassemble les habitants. Une librairie, c'est un point de rencontre, c'est un lieu d'échange.
Oui, la librairie est un endroit très important pour moi. Je crois qu'elle est un endroit très important pour tout le monde. Et on vit dans un monde où il y a moins de librairies, où les gens s'y rendent moins. Et je crois que c'est très important de se rendre compte à quel point une librairie est un lieu de passage, est un lieu de rencontre, est un lieu de richesse pour les gens qui vont dans une librairie en se disant « Mais qu'est-ce que je vais lire ? On peut tout lire, on peut tout voir. On peut aller justement à l'encontre de soi-même en demandant à un libraire « J'aime pas ce genre de livre. Qu'est-ce que vous me conseillez dans ce genre ?» Justement, et le libraire va vous faire adorer un livre dont vous auriez été certain que vous n'alliez pas l'aimer. Et ça, c'est la force d'une librairie et du libraire qui connaît son métier.
Oui, c'est le point central dans le livre, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la librairie, on ne peut pas raconter encore une fois, mais une libraire est morte en tout cas, la joggeuse est une libraire, elle a été assassinée, et puis on s'aperçoit que dans une librairie, il peut se jouer des petites magouilles.
Oui.
À noter d'ailleurs qu'en Suisse, hein, ça n'a rien à voir, mais en Suisse, vous avez donné la primeur de vos dédicaces à une librairie indépendante à Genève, librairie indépendante qui participe à la librairie francophone, donc on est ravis, on vous remercie au passage.
Mais avec plaisir.
L'atmosphère.
L'atmosphère.
De Claire Renaud.
Que j'aime beaucoup.
Bon, on termine avec la nuit noire, Joël. C'est le grand mystère de cette histoire. La nuit noire revient à plusieurs reprises dans cette enquête. Dernière révélation avant de dévoiler tout le livre. Qu'est-ce que c'est la nuit noire ?
Bah, la nuit noire, on ne sait pas très bien. C'est justement, c'est une pièce qui intrigue parce que c'est un terme qui revient et qui revient et dont on va découvrir au fil du roman, sans en dire trop, que c'est une pièce qui va être jouée à Orphéa pour le festival et c'est une pièce qui va révéler toute l'intrigue ou au moins dont on imagine qu'elle va tout révélé.
Voilà.
C'est le MacGuffin.
Bon, ce roman se termine dans un grand délire, il faut le savoir, une hallucination générale. Hein. C'est surréaliste, hein, quasiment, à la fin.
Oui, mais je crois
vous
que
vous avez voulu tout donner, tout lâcher, là.
Mais c'est un roman qui est sur le théâtre, à propos du théâtre, avec tout ce qui va autour. C'est un roman sur aussi l'envie de se lâcher en tant qu'auteur, en tant que lecteur. Et peut-être que parfois, ça va trop loin. Et c'est intéressant pour moi, qui suis quand même un jeune auteur et qui ai encore beaucoup à faire. C'est intéressant pour moi, tout ça, parce que c'est intéressant de voir où est-ce que j'ai... Parce que je sais où j'ai voulu aller.
Oui.
Je peux me rendre compte que ce n'est pas toujours compris exactement comme je voulais le faire, avec toutes les questions de qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on rajoute, comment est-ce qu'on simplifie. Mais ça me donne du travail pour la suite et ça me plaît bien.
La disparition de Stéphanie Mailer, donc, est parue aux éditions de Fallois. Gros livre, voilà, je ne sais pas si vous en voyez toutes ces pages, 640 à peu près. Voilà, merci Joël Dicker.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, vous restez avec nous,
avec
bien
plaisir.
Sûr. On part à Bruxelles dans un instant, retour sur la Foire du Livre, où nous avons organisé une rencontre en public avec le célèbre auteur belge Benoît Peters, qui est aussi le grand spécialiste de Tintin. Et on parle cuisine avec lui, confidence inattendue dans un instant. Et voici le tout nouveau titre de Fatoumata Diawara, qui vient tout juste de sortir. Jarabi tala yola jana ale mason stigima Nderini nderini ngabedisa ne jarabi ma pega nyalo nyala nderini nderini ngabedisa ne tout nouveau titre de Fatoumata Diawara Ntirini dans la librairie francophone. Et on retourne à la Foire du Livre de Bruxelles qui s'est tenue fin février. Nous y avons rencontré Benoît Peters pour une BD sur la cuisine en public sur le plateau de la RTBF.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes ici à Bruxelles face au public de la Foire du Livre 2018. Vous avez publié Comme un chef aux éditions Casterman, une bande dessinée réalisée avec la pétillante Aurelia Horita, connue pour sa série érotique Fraises et Chocolat. Vous racontez votre passion pour la cuisine. Vous avez même tenté d'ouvrir, vous avez été tenté d'ouvrir un restaurant. C'est érotique la cuisine, Benoît ?
Oh, vous savez, de la bonne chair à la bonne chair, il n'y a que quelques lettres qui changent.
Ouais,
ouais. Mais là, voilà, j'ai raconté mon histoire, l'histoire d'un jeune homme qui découvre la cuisine, pas par tradition familiale, qui est ébloui par un grand restaurant, et puis qui s'y met. Et puis, je n'ai pas ouvert de restaurant, j'avais pas les moyens, mais j'ai pratiqué la cuisine à domicile chez des gens, ce qui était plus une expérience finalement sociologique que gastronomique.
Bon, on est ici à Bruxelles face au public. Je suis ravi de vous retrouver ici parce que figurez-vous qu'à ce même endroit où vous êtes là en ce moment où on enregistre cette séquence, il y avait Pierre Winans, que vous connaissez du restaurant Comme chez soi, que vous citez d'ailleurs dans ce livre.
Mais oui, qui était une des tables éblouissantes de Bruxelles au moment où je m'y suis installé et quelquefois on cassait notre tirelire où on usait les premiers droits d'auteur pour aller goûter à la cuisine du Comme chez soi, Place Roup, au cœur de Bruxelles.
Ça. Alors il y a plein de chefs comme ça qui apparaissent, plein de qualités aussi, de sensations fortes. Lorsque vous allez par exemple pour la première fois dans un restaurant gastronomique, c'était chez les frères Trois Gros à Roanne. Vous vous souvenez de ce moment-là ?
Comment ne m'en souviendrai-je pas ? Parce que c'est un restaurant dont j'avais rêvé longtemps. Un ami m'en avait parlé, les descriptions d'Hugo Émillot m'avaient fait rêver. Et sur les routes des vacances, je réussis, dans notre vieille voiture brinque-ballante, à entraîner ma compagne, Marie-Françoise, jusqu'à Roanne, un petit détour. Puis je dis, allons regarder le restaurant. Puis je dis, regarde, le premier menu n'est pas si cher. On pourrait... Elle dit, mais il faut réparer la voiture. J'ai dit, un peu... Elle dit, de toute façon, il n'y aura pas de place. On obtient une place pour le soir même. Et là... on découvre quelque chose qui n'est pas simplement une bonne table, mais une toute autre idée de la cuisine. Et le matin, j'achète le livre des frères Trois Gros et un livre de Michel Garrard et je m'essaie au fourneau.
C'est ça.
Et petit à petit, je progresse. Donc j'ai appris par les livres, j'étudiais à l'époque la littérature, la philosophie, j'étais habitué à travailler avec des livres. Et je dois dire que le livre de Michel Garrard était si pédagogique qu'il m'a aidé à progresser assez vite. Et puis sans doute, j'avais un petit sens.
Pour rassurer vos parents, Benoît Peters, vous faites des études très sérieuses sous la direction de Roland Barthes, qui est votre directeur de mémoire. Vous faites un mémoire sur Hergé. Aujourd'hui, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de Tintin et de l'œuvre d'Hergé. Comment choisit-on entre la bande dessinée et la cuisine ?
Finalement, on ne choisit pas vraiment. D'abord, la vie
si, choisit choisi,
beaucoup dans certaines orientations. Mais vous savez, à l'époque, faire un travail de fin d'études sur Tintin, c'était à peu près aussi bizarre que de vouloir ouvrir un restaurant. C'était extravagant. Mes parents étaient d'ailleurs consternés. Ma mère me disait, un mémoire sur Tintin, ça va te mener loin, tiens. J'avais l'impression que j'aurais dû faire Normal Sup ou Léna, enfin un truc normal, quoi. Et puis, j'ai suivi ma voie en toute liberté. Mon métier n'a pas été la cuisine, mais la cuisine m'a toujours accompagné. Je continue aujourd'hui, pas tous les jours, plutôt un jour sur deux, parce que ma compagne adore cuisiner aussi. Je continue à préparer des plats. Je rivalise pas avec les grands chefs, je fais pas du moléculaire à la maison, mais je fais une cuisine du marché que je crois savoureuse.
Bon, vous êtes très précoce, hein, Benoît Peters, parce qu'à 20 ans, alors que vous êtes étudiant, vous publiez votre premier roman aux éditions de Minuit, un livre qui s'appelle Omnibus, publié donc par Jérôme Lindon. Et Roland Barthes vous dit, mais pourquoi vous continuez vos études alors que vous êtes déjà de l'autre côté. Il vous dit ça alors que vous l'invitez à dîner, vous lui faites un super repas d'ailleurs, hein, vous en faites des tonnes pour lui faire une démonstration.
Je fais un repas sur mesure, c'est-à-dire que je prends des choses dont je sais qu'il les aime, mais je ne le lui dis pas, donc il est chaque fois un petit peu étonné que je sois tombé juste. Ma grande tristesse étant évidemment qu'il soit mort si tôt, si jeune, alors que j'étais encore en études avec lui, et comme beaucoup de ses étudiants, je suis resté un peu orphelin.
Oui, et vous étiez libraire à Bruxelles.
Après, je suis devenu
libraire.
Et
vous apprenez sa mort dans la librairie.
Ah oui, alors ça,
c'est vrai cette histoire.
C'est une scène qu'on raconte. Tout est vrai dans le livre, mais je raconte cette scène. Je suis dans cette petite librairie qui s'appelait Macondo, dans une galerie du centre de Bruxelles. Et Le téléphone sonne, ici les éditions du Seuil. Roland Barthes vient de mourir. Combien d'exemplaires de son dernier livre commandez-vous ? Je raccroche, je dis on vous rappellera, et je raccroche, j'ai les larmes aux yeux, et donc Aurélia a restitué cette scène dans la bande dessinée. Bon, vous savez, les éditions du Seuil ou d'autres font leur travail, si je meurs demain, les éditions Casterman appelleront et diront combien d'exemplaires de son dernier livre prenez-vous. Il n'empêche qu'il ne savait pas qu'il tombait sur quelqu'un qui le connaissait bien et qui apprenait comme ça son décès.
Alors il y a Déborah Damblon qui est avec nous. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire vous aussi, finalement collègue un peu de Bona Peters.
Ah oui,
libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles où il faut aller. C'est une librairie magnifique. Alors vous avez lu ce livre de cuisine, très étonnant hein, parce que Bona Peters on le connaît dans plein de registres, la cuisine pas encore. Et pourtant donc c'est sa vie aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous ?
Mais d'abord quand on m'a annoncé ce livre, je me suis dit oh non. Il n'a pas fait ça parce que, pour le moment, la cuisine, c'est vraiment devenu de l'athlétisme presque. Il y en a, c'est des épreuves, c'est faire mieux, plus fort, plus compliqué, plus... Enfin bon, et puis j'ai ouvert le livre et je me suis dit, bah non, il est comme il est. C'était plein de délicatesse, c'était plein de partage et c'était plein de littérature.
Plein de partage, plein de littérature, c'est vrai, et puis plein d'anecdotes. Il y a cette histoire, cette rencontre incroyable avec Claude Perrault, qui est un grand chef cuisinier. Il avait un grand restaurant à Paris, très chic, et vous y allez à l'époque avec votre copine en tenue de campagnard. Tout le monde vous regarde de travers, vous choisissez les plats les plus simples, les moins chers.
Parce qu'on n'a pas de sous, on n'a pas,
pas de vin
en fait qu'il faut.
Et on vous sert quasiment tous les plats de la carte.
Oui, c'est un souvenir merveilleux, parce que Claude Perrault, ce grand cuisinier dont on disait qu'il était en analyse avec Lacan, ce qui lui donnait un prestige particulier, sans qu'on n'ait pas des clients tout à fait normaux, on n'est pas des hommes d'affaires venus se montrer là, sans qu'on ait des passionnés de cuisine et veut nous faire goûter les choses bien au-delà de ce que nos moyens nous permettraient de commander. Et à la fin, il vient s'asseoir avec nous, il partage le dessert, il nous demande notre avis sur les plats et puis dit « Vous êtes vraiment venu pour ma cuisine, je l'ai vu tout de suite ». Et c'était un moment de générosité tellement extraordinaire que je me suis dit, j'ai pas assez dit merci à ce monsieur. Et voilà, des années après, en faisant ce livre, quand ce souvenir me revenait et ce côté de partage tout à fait exceptionnel, parce que tenir un grand restaurant, c'est aussi tenir une entreprise, c'est difficile. Je me suis dit, voilà l'occasion de dire vraiment merci et de dire que dans ce monde parfois dur de la grande cuisine, il pouvait y avoir des actes comme celui-là. De même que je me souviens de mon amitié avec ce grand chef belge, Willy Slavinsky, qui officiait à Gand dans un restaurant qui s'appelait Apicius.
Grand hommage, hein, à Willy.
Qui avait commencé à travailler à 14 ans, le jour de ses 14 ans, comme apprenti, qui a gravi tous les échelons, qui avait fait un restaurant totalement novateur. On avait rêvé de faire un livre de cuisine ensemble et il est mort à 43 ans d'un cancer. Et c'était resté pour moi une personnalité d'artiste aussi forte que beaucoup d'écrivains ou de peintres ou de cinéastes que j'ai pu rencontrer. Et je suis heureux d'avoir pu le faire revivre parce qu'un cuisinier, c'est un artiste de l'éphémère.
Bien, merci beaucoup Benoît Peters. Vous pouvez applaudir Benoît Peters puisque vous êtes dans le public ici même à Bruxelles avec cet entretien autour de Comme un chef réalisé avec Aurélia Horita, paru chez Casterman. Merci au public de Bruxelles qui nous a accompagnés. Merci beaucoup Benoît, à très bientôt.
Merci à vous.
On quitte le public pour l'intimité du studio, la chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde. Tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec un étrange coup de gueule signé Laura Sanchez en Suisse.
Ouais, je vais finir par me faire ficher. Mais oui, Emmanuel, j'aimerais faire un coup de gueule sur la difficulté, la grande difficulté en librairie, entre autres, de commenter ou critiquer le livre dont tout le monde parle et que l'on vend tous les jours à plusieurs exemplaires. Prenez le nouveau roman de Joël Dicker, au hasard.
Je ne connais pas.
Vous connaissez pas,
non,
mais vous
n'avez jamais entendu parler.
D'accord. Alors vous allez comprendre. Si je dis qu'il est formidable, j'en rajoute au brouhaha ambiant. Mais par contre, si je suis un peu critique, je vais encore passer pour la râleuse de service. Alors que faire?
Oui, les livres dont tout le monde parle, c'est difficile. Hein.
C'est difficile.
Mais avec Joël Dicker, ça va. On peut dire ce qu'on veut.
C'est
plutôt sympa. Non, mais c'est vrai. Bon, allez. Mathieu Colombe, coup de cœur ou coup de gueule, vous?
Coup de gueule aujourd'hui.
Allons-y.
Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'immiscer dans l'air du temps qui me dérange un petit peu. Je sais pas si vous le savez, mais récemment, 148 249 signatures sur une pétition sur Internet ont amené les éditions Milan à ne pas réimprimer un livre, un ouvrage pour la jeunesse. Alors déjà, il y a un fait intéressant, c'est que le dit
bouquin...
Ouais. Eh bien, vous allez savoir. Alors déjà, un truc intéressant, c'est que le dit bouquin a été tiré à 5000 exemplaires.
Donc, les gens qui se sont portés contre ce livre ne l'ont certainement jamais ouvert de leur vie.
Ouais.
Il y a une énorme polémique autour de ce livre sur Internet, comme quoi il était excessivement rétrograde, qu'on a donné une très mauvaise image de la femme à des enfants. Mm-hmm. Le livre s'appelle On a chopé la puberté.
Alain Frein, vous connaissez. Mais...
Je n'ai pas lu ce livre. Je ne suis pas là pour le défendre. Mais par contre, le gros problème qu'on a, c'est qu'actuellement, donc, on a eu des gens qui se sont portés en censeur de quelque chose. Ça me gêne beaucoup parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de liberté d'expression.
Bien. On a chopé la puberté, hein, donc ce livre paru chez Milan qui n'est donc pas réédité. Merci pour cet éclairage, Mathieu Colombe. Le coup de cœur de Marie-Noëlle Blé au Canada s'adresse à la jeunesse, justement. Les enfants, écoutez bien.
Oui, et c'est beaucoup moins polémique que le livre dont parle Mathieu. Oui, c'est Paul et Antoinette du duo d'illustrateurs Carrascoët, publié à la Pastèque. Un très bel album pour les 3-7 ans qui aborde le thème de la fratrie et des différences de tempérament. Donc, on retrouve Paul et Antoinette qui sont deux petits cochons, frères et sœurs. Ils sont très différents, mais ils aimeraient pas vivre l'un sans l'autre. Le texte révèle une petite morale qui fait du bien et pour ma part, ça m'a donné envie d'escapade à la campagne.
Paul et Antoinette du duo Carrascoët, deux dessinateurs magnifiques aux éditions La Pastèque. On termine avec un coup de gueule en Belgique avec Déborah Damblon.
Ben oui, parce que je ne sais pas si c'est moi, Emmanuel, mais j'ai de plus en plus l'impression que certains auteurs, eh ben, ils sortent leur nouveau roman juste parce que c'est la date prévue et pas parce qu'il est vraiment prêt, pas parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire. Alors, au risque de passer pour une vieille taupe mal lunée. Ne dites rien, s'il vous plaît, ne dites rien. J'ai envie de demander où sont les éditeurs d'antan? Vous savez, ceux qui épaulaient leurs protégés, qui les poussaient dans leur retranchement, qui faisaient sortir le meilleur de leur talent. Pas de pression de date.
Ça fait rire Agnès de Sarthe.
Oui. Beaucoup.
Ouais. Qui ne dit mot qu'on sent. Alors, je vais vous dire une chose. C'est que nous, on a remarqué aussi que certains auteurs arrivent ici avec des livres qui sont pas édités, comme on dit, qui ont mal été accompagnés, qui sont mal fichus. Et c'est très dommage parce que ça gâche souvent beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est le rôle des éditeurs. Vous avez raison. Tout le monde acquiesce ici. Je vous le dis. Vous ne les voyez pas. Mais je vous le dis. Merci beaucoup, Déborah.
Avec plaisir, Emmanuel.
À suivre, deux grandes femmes de lettres, Agnès de Sarthe et Irène Frein, rencontrent autour de deux collections de petits livres. On parle de l'enfant. Enfance dans un instant. Et ce 11 mars 2018, cela fera 40 ans que Claude François est mort. Week-end de commémoration donc, voici en guise d'hommage et de souvenir un titre pas vraiment connu. À vous de juger en écoutant, voici Quand un bateau passe, titre de 65 dans la librairie francophone.
Quand un bateau passe, quand un train sifflet, quand un avion s'envole dans le ciel, moi j'imagine tous ces départs, tous ces gens qui doivent partir, qui se séparent, qui se déchirent. Quand un bateau passe, quand un train siffle, quand un avion s'envole dans le ciel, moi je revois ce matin triste où en partant du désert, l'été prochain, je reviendrai. Et depuis ce jour sous le soleil brûlant, je t'attends. Trois étés déjà sont revenus. Je suis là comme je t'avais promis. Mais où es-tu? Mais où es-tu? Mais où es-tu? Quand un bateau passe, quand un train siffle, quand un avion s'envole dans le ciel, amèrement, moi je me dis que s'il n'existait pas, peut-être alors serais-tu là. Quand un bateau passe, quand un train siffle, quand un avion s'envole dans le ciel, j'espère encore, j'espère toujours que bateau, train et avion qui t'emmenaient te ramèneront.
Connaissez-vous ce titre de Claude François, Quand un bateau passe, titre de 1965, ça fait beaucoup rire Irène Frein.
Et oui, je ne suis pas Claude François Logue, donc je n'ai pas moyen de juger ni l'archéologie de ce titre, ni mais la non, subtilité des arrangements. Je me sens démunie.
Vous le connaissiez, ce titre-là, ou pas?
Ah bah pas du tout.
Mais non, mais nous non
mais
plus.
Mais non, mais moi, j'en sais. Alexandrie, Alexandra. Non,
oui,
bah
ça, oui, mais on a évité ça, justement.
Elle a dit, bon. Elle a dit au soleil.
Bon. Allez, petite pensée pour Claude François sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Nous allons vous faire découvrir deux nouvelles petites collections, une pour les enfants lecteurs et une autre pour les adultes. Et puis nous allons parler de l'enfance. Agnès de Sarthe, donc Folio Cadet, fait peau neuve. Gallimard lance une collection pour les enfants en âge de lire, premier roman, ça s'appelle, au pluriel. Et dans cette collection, vous publiez Le Monde selon Frintec. Parce qu'il y a trois R, illustrés par Bruno Salamone, l'histoire de deux frères qui se racontent des histoires. L'aîné rassure son petit frère comme ça.
Oui, il ne s'appelle pas vraiment Frintec. Le petit frère s'appelle Grondouk, mais enfin, ni l'un ni l'autre ne s'appelle vraiment comme ça. Ce sont des noms qu'ils ont choisi de se donner dans, au cours d'un pacte, comme il y en a parfois entre frères.
Des noms d'aspiration inuit.
Et donc, le grand frère, tous les soirs, doit rassurer son petit frère qui a peur d'à peu près tout. Et pour le rassurer, il lui raconte, depuis sa science, qui est infinie pratiquement, l'histoire du monde dans sa version, qui est très particulière.
C'est ça. Vous avez un frère, vous, Agnès, Laurent Naouri, chanteur d'opéra célèbre, qui a 2 ans de plus que vous. Si
Absolument.
Mes infos sont bonnes, comme dans l'histoire.
Non. Mais j'ai aussi une petite sœur.
Et oui, aussi.
Donc les lits superposés avaient 3 étages et les histoires descendaient de haut jusqu'en bas.
Et c'est vrai, c'est une histoire qui remonte à votre enfance, pas,
non.
Pas
non,
du
non,
tout.
Non, non, non. En fait, je m'inspire. Je ne sais pas vraiment de quoi je m'inspire pour les histoires que je fabrique. Il y a forcément un goût de la fratrie, ça c'est sûr.
Ouais.
Après, sur le détail, non, c'est très. Fantaisiste.
Ce qui vous intéresse, Agnès, dans la littérature jeunesse, vous en avez publié une trentaine de livres pour la jeunesse, c'est la liberté de format, la liberté de forme, mais aussi la possibilité de poser des questions en donnant des réponses. Car, vous le dites, les enfants sont avides de réponses. Contrairement aux adultes, ils savent qu'ils ne savent pas.
Alors, ils sont plutôt avides de questions, pour moi. J'ai l'impression que c'est plutôt que les adultes cherchent des réponses et veulent en donner, et que les enfants, ce qui les intéresse, c'est la question. En général, un enfant vous demande « Et pourquoi la lune, elle tourne ? Pourquoi le soleil, il tourne autour ? Et pourquoi la terre, elle tourne autour ? Et pourquoi la lune ?» Et ils n'attendent même pas la réponse.
Ça dépend.
En fait, c'est là. Parfois oui, parfois non. Parfois, ils enchaînent déjà sur une autre question. Et ils écoutent la réponse, mais ils sont aussi heureux. Le moment de joie, il est aussi dans le simple fait de poser la question. Donc il y a cette curiosité insatiable que je trouve très propice pour un écrivain, parce que quand on s'adresse à des adultes qui ne posent pas spécialement de questions et qui, eux, ont plutôt hâte de trouver des réponses, je trouve ça moins stimulant. Voilà.
Parlons de ces deux frères qui vont donc, comme vous l'avez dit, se créer un monde en se donnant des noms d'inspiration inuite et surtout en réinterprétant l'histoire du monde. Les pyramides, par exemple, ont été inventées selon ces deux gamins selon le frère aîné, par les Égyptiens pour conserver le camembert.
Oui. Parce que c'était un énorme problème. Quand les Égyptiens ont inventé le camembert, ils étaient hyper contents parce que c'était blanc, c'était rond, c'était beau, ça faisait très joli sur leurs amphores avec eux qui marchaient de travers. Et puis à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait un énorme problème avec le camembert, c'était que ça puait.
Ouais.
Et le problème, c'est que, comme l'explique Frintec à Grondouk, c'est que quand on a inventé quelque chose, on ne peut pas le désinventer. C'est comme la bombe atomique. Une fois qu'on a inventé le camembert, il existe pour toujours. Mais comment faire avec l'odeur? Et là, ils ont eu cette idée géniale de construire les pyramides. Et c'est quand même incroyable.
Évidemment.
Parce que ça ne sent pas du tout le camembert.
Exactement.
En Égypte. C'est comme quoi ça marche.
Alors en fait, Agnès de Sarthe, vous éduquez nos enfants à propager des fake news, ce qui est très grave en ce moment.
J'espère qu'il va y avoir une pétition.
Alors on pourrait dire.
Je vais contacter les gens de la pétition. Je vais leur dire, écoutez, c'est une occasion en or. Allez-y,
de faire la promo du livre. Alors disons plutôt un Fox, comme il nous est conseillé par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. Un Fox plutôt que fake news. Autre chose, les filles. Alors justement, puisqu'on a eu le 8 mars, journée très importante pour les femmes. Les filles ont été inventées il y a très très longtemps par un savant fou à la place du chewing-gum. C'est pour ça, je cite, qu'elles sont molles et collantes, mais qu'elles ont une bonne odeur.
En fait, c'est un moment où Frintec va tellement mal que c'est Grondouk, le petit frère, incapable, nul, qui doit lui raconter une histoire. Et comme il souffre d'un chagrin d'amour, il se dit « je vais démolir les filles en général ». Dire qu'elles ont été le fruit d'une expérience malheureuse d'un savant fou. Et comme ça, ça va peut-être consoler mon frère. Elle est formidable. Je suis même assez collante. Hein,
Agnès, oui, c'est vrai, hein, vous avez l'air un peu collante. Molle, non, plutôt collante.
C'est aujourd'hui, mais d'habitude molle. Oui.
Et vous sentez bon, tout va bien. Deux libraires ont lu votre roman, Agnès de Sarthe, La Belgique et la Suisse. Qui voulez-vous d'abord?
Belgique, vous avez dit en premier. Oui.
Déborah Damblon.
Bon, ben alors, c'est plus la vieille taupe mal lunée, hein, ne vous en faites pas, Agnès. D'abord, moi, je voudrais vous remercier chaleureusement, Emmanuel. D'abord, oui, parce que vous avez invité Agnès de Sarthe, et voilà, je vous en félicite. Bon, et puis, surtout, de m'avoir fait lire son adorable, merveilleux petit bouquin. Parce que c'est vraiment un bonheur d'avoir de nouveau 8 ans. Et puis, c'est vraiment aussi une joie de se dire que les jeunes enfants, ben, ils ont accès à cette littérature de qualité, intelligente, drôle, humaine, touchante, enfin, bref, encore des tas de choses. Alors, bravo, Madame de Sarthe. Continuez à prendre la plume souvent et à nous enchanter.
Merci beaucoup.
Laura Sanchez pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Bah oui, moi je suis comme Déborah, j'aimerais avoir à nouveau 8 ans. Alors elle, je pense qu'elle a eu 8 ans vraiment en lisant ce livre. Moi je me suis quand même sentie loin de mon âge. Je serais tellement heureuse de tomber sur ce livre quand j'étais enfant. C'est drôle, c'est fantaisiste et c'est frais. De ma position d'adulte, j'ai surtout été émue moi de voir le récit de cette relation de ces deux frères avec le grand qui s'occupe avec beaucoup de tendresse des insomnies et des questions du petit. Et comment à un moment donné, les choses s'inversent.
Oui, c'est vrai que c'est magnifique, avec ce chagrin d'amour très touchant, la vie de nos libraires, de nos vieux libraires, hein, la vie des vieux. Moi, je l'ai lu avec le regard d'un enfant de 8 ans. Votre premier chagrin d'amour reste en vous, Agnès?
Bizarrement, mon premier chagrin d'amour, c'est un chagrin d'amour que j'ai causé.
Je suis idiot.
Mais je m'en suis pas. Ça c'est bien retourné parce que c'était en dernière classe de maternelle. Il y avait un garçon qui était très amoureux de moi et puis il avait la varicelle, je crois, à ce moment-là. Et je lui dis non, genre t'es tout rouge ou je sais pas quoi. Et des années plus tard, je l'ai retrouvé et on avait 18 ans. Et là, je m'approche. Salut, tu te souviens de moi? On était en maternelle ensemble. Il fait ah pas du tout. Et ben c'était bien. Il a bien fait.
Irène Frein, vous vous souvenez de votre premier chagrin d'amour?
D'enfant, je crois pas que j'en ai eu. Il y a eu des séparations, par exemple quand c'était la fin du centre aéré. Ouais. Comme les garçons et les filles vivaient de façon très séparée dans cette petite ville bretonne, et que nous vivions un peu isolés dans une cour, et qu'il y avait des filles à la maison, et que les garçons, c'était vraiment un univers très très dangereux selon ma mère. Donc je me souviens d'avoir recroisé ce garçon dans les rues, mais d'avoir beaucoup rougi et pas osé m'approcher, voyez.
Des souvenirs, il y en a, hein, dans cette nouvelle collection portée par les éditions de l'Aube, en coédition avec le journal Le 1 d'Éric Fotorino, et ce livre, Il me fallait de l'aventure. Dans cet ouvrage, vous racontez des choses très personnelles, en 6 textes, 6 récits, votre regard sur les dernières élections en France, la peur qui s'est installée en 2015 après les attentats, et puis votre rapport à la culture lorsque vous étiez enfant. Parce que l'enfance a été le moment pour vous, Irène Frein, de prendre conscience de l'importance de la culture.
Bah c'était mon père avait choisi de vivre dans une cour en dehors d'une rue, et comme ils étaient très pauvres, ils étaient moins pauvres que les gens d'en face. Le père était alcoolique, il avait 6 enfants, et j'ai tout de suite vu, moi j'ai des souvenirs plus précoces de cela, pris conscience que nous on était pauvres, mais on était moins pauvres déjà. Ouais. C'était vraiment la misère noire. Et puis nous on était au bout, on était 7 dans 35 mètres carrés à peine, je pense, et simplement, mes parents avaient le respect des livres. Et même si ma mère me rejetait, on a toutes eu, nous, les trois filles, la carte de bibliothèque à 7 ans. Et ma mère avait lu. Elle avait lu pendant la guerre, réfugiée, en centre-Bretagne, mon père, dans les stalags aussi.
Et c'est ce qui vous a séparé finalement de votre meilleure amie.
Oui,
parce que
absolument.
Votre meilleure amie a 13 ans, Soisic, elle habite à côté, elle est dans la misère absolue.
Elle est à 10 mètres.
Elle se fait tabasser par son père, c'est absolument horrible. Elle se réfugie chez vous un soir, elle dort avec vous, vous lui racontez une histoire et vous dites, voilà, j'ai compris. La différence entre elle et moi, c'est que moi, je lis des livres, alors qu'elle n'a pas de culture.
C'est-à-dire que ma mère, après l'avoir soignée, elle et ses sœurs qui avaient été tabassées à coups de bouteilles. Elles étaient arrivées ruisselantes pendant qu'on entendait sur la radio que le président Kennedy venait d'être assassiné. Oui. Bon, enfin, pour moi, c'était les filles ruisselantes. Ma mère les soigne avec de l'éther.
C'est un livre de Joël Dicker, ça.
Et
Kennedy donc, assassiné, la gamine battue.
Oui.
Un autre personnage arrive à ce moment-là.
Oui, sauf que moi, je vivais ça comme les enfants, c'est-à-dire que je regarde le film, quoi. Hein, je comprends pas trop ce qui se passe. Et donc ma mère dit, t'as qu'à leur lire quelque chose, tu les emmènes à côté, tu leur lis quelque chose. Et je dis quoi? Ben, ce que tu veux. Et donc, j'ai pris ce qui me plaisait. J'ai essayé Alice au Pays des Merveilles. Ça n'a pas du tout marché dans les circonstances. Et j'ai pris après un passage de l'Iliade et l'Odyssée. Et j'ai commencé à raconter en résumant les épisodes, en montrant les images et comment on vivait, au bord de la mer. Ça a marché. Et c'est là que le lendemain, j'ai pigé le fil qui nous sépare, c'est ça.
C'est ça.
C'est la culture.
Joël Dicker, vous vous souvenez de votre premier livre?
Le premier livre que j'ai lu.
Oui, dans votre enfance.
Mais alors, je me souviens du premier livre qui m'a donné des émotions très fortes. J'étais à avoir 11 ans. C'est un livre qui s'appelle Le dernier loup d'Irlande de Elona Malter. Et je me souviens que j'avais lu en cachette, parce qu'il était l'heure que je me couche, mais je voulais finir. Et ce livre se termine très mal parce que le loup, évidemment, meurt. Et j'avais pleuré. Et c'est la première fois où j'ai été marqué. Je me suis dit, mais un livre, c'est ça aussi.
C'est ça aussi. Alors, deux libraires ont lu votre livre, Irène Frein. On va leur donner la parole tout de suite. Il y a Mathieu Colombe pour la France, face à vous.
Oui, et j'ai trouvé que ces petits billets d'humeur étaient très agréables à la lecture parce qu'ils nous dévoilent, en outre votre vie et vos pensées, une partie de l'histoire récente et tout particulièrement de la condition féminine, son évolution et parfois le combat que cela pouvait être d'être une femme. Je pense qu'il faut ici noter votre talent d'ailleurs, celui de nous amener à la réflexion en toute légèreté, l'air de rien, mais avec une réelle efficacité.
Merci.
Exactement, la condition des femmes, il a raison Mathieu Colombe, parce que vous racontez aussi comment à l'âge de 22 ans, vous devenez enseignante et comment d'un coup vous décidez de tout quitter par peur de la répétition. Parce que vous ne voulez pas vivre la vie de votre mère qui a vécu toute sa vie dans la répétition des tâches ménagères. Et vous dites, moi je veux de l'aventure.
Oui, parce que...
Je veux être une femme libre.
J'avais vu toutes ces femmes qui étaient des fourmis. Pour moi, des fourmis parfois zigzagantes, et j'avais compris qu'une partie de la condition féminine, elle est toujours maintenant, et c'est l'assignation à la répétition notamment. Les femmes se sentent obligées pour les tâches ménagères, pour s'occuper des enfants, etc. Et c'est très difficile dans beaucoup de milieux d'obtenir le partage de tâches. Enfin, on les obtient, mais et c'est... Je suis très sensible à la condition des femmes, notamment des milieux populaires, parce que je sais comment ça se reproduit. Et à un moment, j'étais un professeur heureux, je formais même des professeurs, j'ai tout envoyé valdinguer pour aller dans l'aventure qui est d'écrire.
Oui, c'est ça. Alors, vous parlez de l'aventure, comme ça, de ce besoin d'ailleurs. Il y a une réflexion sur l'ailleurs qui est très intéressante dans l'un des récits. L'ailleurs, contrairement à quelque part, c'est inquiétant. C'est trop loin pour être confortable.
Que c'est ce qui permet de briser les limites du monde, l'espace et le temps.
Par exemple, vous vivez en Bretagne.
Oui, au bord de la mer, oui.
Et pour vous, l'ailleurs, c'est la ville de Nice.
Oui, parce que
j'ai votre grand-mère.
Vu sur une chromo de ma grand-mère, dans sa pièce unique à terre battue, et je me dis, c'est sûrement ça. Et je dis à ma grand-mère, mais alors, t'es allée à Nice? Sûrement pas, mais comment veux-tu que j'ai fait ça? Faut avoir des sous. Ouais. Alors, je fais tout de suite une hiérarchie, je suis très classifiante, sans doute parce que je suis anxieuse. Et donc, il y a la maison. Le quelque part, c'est quand on va à la plage, parce que ma mère obtient, au bout de supplication de mon père, d'aller quelque part, généralement en été,
donc c'est
soit aller dans les champs, dans une forêt, et puis exceptionnellement à la plage. Et puis ailleurs, ça commence par être une petite île dans la rade de l'Orient, et puis après c'est le grand ailleurs, c'est l'Inde, et puis grande fille supposée, je finis par aller en Inde, et je finis par devenir cette voyageuse. Et...
Ouais. Agnès de Sarthe, l'ailleurs, c'est quoi pour vous?
C'est quelque chose qui existe de moins en moins. Parce que à cause de la mondialisation, tout a tendance à se ressembler. Et ce que vous disiez de l'ailleurs, ou ce que disait Irène Frein sur l'ailleurs inquiétant, n'existe plus parce que l'ailleurs est déjà connu. Alors je ne sais plus où c'est maintenant l'ailleurs.
Bien. On va laisser la parole à un libraire, à une libraire, une femme libraire. On va terminer le mot de la fin pour une femme au Canada, Marie-Noëlle Blé.
Oui, pour moi, vos chroniques sont comme des fenêtres grandes ouvertes pour nous laisser voir le monde qui nous entoure autrement que par le petit bout de la lorgnette. En vous lisant, on se sent comme enthousiasmé par votre œil attentif et votre compréhension profonde des gens et vraiment de tous les gens, sans aucune forme de hiérarchie du cœur. Et puis, c'est aussi une lecture qui donne aux petites choses de la vie, les choses plus modestes, une importance capitale.
Merci beaucoup, je suis infiniment touchée.
Il me fallait de l'aventure d'Irène Frein aux éditions de l'Aube dans la collection Le 1 en livre. Merci beaucoup Irène, vous avez aussi publié La fille à histoire. C'était à la rentrée aux éditions du Seuil, ce récit.
Les articles
sur votre enfance aussi.
Oui, c'était Eric Fotorino qui, en proposant ces articles, m'a encouragée à fendre cette peur de cette mère rejetante. Elle est morte depuis longtemps et... Il me le fallait de l'aventure et la matrice de la fille à histoire.
Exactement, c'est en lien, c'est pour ça que je le cite. Merci Irène. Agnès de Sarthe, Le Monde selon Frintec.
Parfait.
Hein, avec trois R. C'est aux éditions donc Gallimard. Magnifique illustration de Bruno Salamone. Oui. Hein, vraiment, c'est magnifique. Oui. C'est un petit livre génial. C'est Folio Cadet qui publie ça. Et c'est la nouvelle collection hein, de Folio oui. Cadet. C'est très bien réalisé. On vous le conseille vivement. Merci à toutes les deux.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Quérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le français Yvan Marc avec un extrait de Sous les gants.
Je garde de la neige dans un coin de mon âme. Je garde de la neige quelque part dans mes pensées. Je garde de la neige quand l'hiver nous aura oubliés. J'aurai quelques flocons à ramasser. Je garde de la neige pour les prochains qui n'auront plus rien à se mettre sous les gants. Je garde de la neige en souvenir des longues glissées. Des enfants revenant, les fesses se geler. Je garde de la neige pour les années de sécheresse. Je garde de la neige pour ne pas oublier.
Yvan Marc, Sous les gants, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Ludovic Asselot, Thierry Dupin, la programmation musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. Merci Joël Dicker. À très bientôt.
Beaucoup.
Agnès Dossart, Irène Frein, merci encore.
Merci
la semaine
vous.
Prochaine, nous serons au Salon du Livre de Paris avec les auteurs qui font l'événement sur place et avec le groupe réunionnais l'Indigo qui jouera un titre en public. Enregistrement exceptionnel vendredi 16 mars à 15h30. On vous y attend nombreux. Vous y serez Agnès ?
Oui ? Oh, je
Irène
ne crois
aussi,
pas.
Non ?
Oui,
non.
Pour parler de...
D'accord.
De ce petit livre aux éditions de l'Aube.
La promo jusqu'au bout. Magnifique. Bon week-end, bonne semaine. À bientôt, salut.